Le journal présenté par Ella Charrière.
Bonsoir. Une rave party réunit plusieurs centaines de personnes. Un champ dans le secteur des Cernets, aux Verrières, est occupé illégalement par des raveurs depuis hier soir. La police neuchâteloise a demandé aux participants, qui voulaient initialement rester jusqu'à lundi matin, de se retirer du lieu. Les organisateurs parlent de 800 personnes, alors que la police articule plutôt le chiffre de 500 personnes. Selon les forces de l'ordre, une centaine de personnes sont encore actuellement sur place. Même et surtout, après un jour férié, la voirie est au service de la population. Les conducteurs et leurs camions étaient debout et en forme à l'aube ce matin dès 6h pour nettoyer les rues. Et des forces supplémentaires ont été mobilisées. Rencontre avec Olivier Auray, chauffeur poids lourd à la voirie de la ville de Neuchâtel.
Bonjour, je m'appelle Olivier Auray, je suis chauffeur à la voirie. Je fais différents travaux au sein de la voirie au niveau des camions.
Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre tournée?
Alors aujourd'hui, je vais vider le papier. Donc on est le lendemain d'un jour férié et puis en fait on s'assure que les points de collecte soient libres pour que les gens puissent venir vider leurs différents produits, le verre ou le papier.
Le lendemain d'un jour comme ça, d'un 1er août, est-ce que vous remarquez des changements?
Non, il n'y a pas de grands changements. C'est calme, les gens dorment, ils ont bien raison, ce qui nous permet de faire rapidement notre travail.
Donc ça va, bah, comme aujourd'hui, pour ces nettoyages d'après 1er août, on a des balayeuses qui tournent tous les jours, on a des camions qui sont pour la collecte des ordures ménagères, collecte du papier, on a aussi les cantonniers qui balayent les quartiers, donc c'est vraiment axé sur l'entretien de cette ville.
Est-ce que vous remarquez une évolution dans les comportements des gens au fil des années ?
Tout à fait. Avec les années, on voit qu'il y a une prise de conscience. Les gens gardent leurs déchets, ils recyclent. Donc on constate quand même une diminution des tonnages de déchets. Donc il y a une grande prise de conscience de ce côté-là.
Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier ?
Ce qui est motivant, c'est de voir le résultat de notre travail. Une fois qu'on a nos équipes qui sont passées, on a une ville qui est propre, les corbeilles sont vides, il n'y a plus de déchets par terre, et ça, c'est très satisfaisant. Les points négatifs, c'est les personnes qui sont impatientes et parfois même agressives envers le personnel de la voirie. Un véhicule qui est là sur la route ou qui avance lentement, il n'est pas là pour embêter, il est là pour faire son travail. Et pour que les habitants de cette ville gardent leur ville propre. Donc c'est le côté qui est dommage, des fois, c'est cette impatience des personnes.
Ce reportage est à retrouver sur rtn.ch. Un champ a pris feu hier soir à Boutevilliers. Les flammes ont ravagé près de 4 hectares de blé du village vaudrusien. L'alarme a été donnée à 21h39. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place pour maîtriser l'incendie. Les causes du sinistre ne sont toujours pas connues. La poésie peut-elle nous parler autant que le football ? C'est le pari d'Alexandre Caldara, directeur d'une nouvelle collection aux éditions neuchâteloises du Griffon. Pulp Collection a été lancée fin 2024 avec la publication notamment de « Joie des petites catastrophes », un recueil de poésie de l'écrivain neuchâtelois Jean-Bernard Vuillem. Ce nouvel espace d'expression est ouvert à divers artistes et différents styles. Alexandre Caldara fait le pari de l'originalité, mais il souhaite surtout toucher les gens. Tout comme Karim Karkeni, que vous entendrez rire en arrière-fond, qui lui dirige Marge Blanche, autre jeune collection des éditions du Griffon. Alexandre Caldara.
Notre rapport à la littérature vient aussi du fait que la littérature n'a pas été une évidence dans nos vies. On aimait plus le football, les deux, et on aime toujours le football, hein, je tiens à le dire, l'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, il y a des écrivains sud-américains comme Alejandro Zambrano, que je suis en train de lire en ce moment, qui écrivent des choses magnifiques là-dessus. Vraiment, on peut aimer les deux, on doit aimer les deux, mais c'est vrai que la littérature paraît plus difficile que le football. Moi, je pense que c'est la même chose. Les grandes actions de football qui m'ont enchanté dans la vie, elles peuvent ressembler à une phrase qui nous échappe. Et je pense qu'un joueur comme Hatem Ben Arfa, il échappe à tout, quoi.
Propos recueillis par Vincent Coster, reçus à la librairie de la Méridienne à La Chaux-de-Fonds par Alexandre Caldara et Karim Karkeni. Vous retrouverez le sujet au complet sur rtn.ch. filets qui traînent sur le sol ou mal tendus. Dans les vignes, ils peuvent être des pièges mortels pour les oiseaux. Étourneaux, merle noir ou encore pique vert, les espèces qui mangent les raisins et ceux qui nidifient dans les vignes sont directement concernées. La station ornithologique suisse a publié une vidéo pour rappeler la pose correcte de ces filets. Chloé Peng, porte-parole de la Fondation, nous détaille la marche à suivre.
La première étape, c'est d'établir si les filets sont vraiment nécessaires. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un filet? Et si oui, il faut les mettre seulement aux endroits où les récoltes sont très menacées. Et ensuite, il faut les poser correctement. Donc, ce qui est dangereux pour les oiseaux, ce sont les bouts de filets qui traînent au sol ou alors les filets qui sont mal tendus ou qui sont troués. Donc, c'est là qu'ils s'empêtrent le plus facilement. Pour ce qui est de la viticulture, on conseille d'utiliser les filets latéraux. Et puis dans tous les cas, peu importe l'endroit, que ce soit dans un jardin privé aussi, il faut bien tendre le filet et puis si possible, le choisir visible avec des mailles souples. Et puis si on a un filet qui est en place, il faut le contrôler tous les jours pour vérifier qu'il n'y a aucun animal qui est pris au piège dedans. Et si on trouve un animal, il faut le libérer et ensuite l'amener à une station de soins.
Les filets ne doivent être utilisés qu'aux endroits où la récolte est particulièrement menacée. Ceci afin d'éviter autant que possible de blesser des animaux. Anne-Claire Schott, viticultrice à Douane, au bord du lac de Bienne, en installe seulement sur quelques parcelles.
Il faut vraiment les mettre qu'en bordure de forêt ou si un arbre. Parce que c'est souvent des petits oiseaux qui vont d'un côté à l'autre, genre qui sont sur un arbre, et après ils volent quelques mètres pour aller manger quelques raisins. Et après on couvre des parcelles tardives, donc celles qu'on va vendanger en dernier. Et ça, c'est protégé contre les étourneaux qui viennent après, plus tard dans la saison.
Et ça arrive souvent qu'il y ait des oiseaux qui soient coincés dans ces filets, justement?
Oui, on en trouve peut-être un à deux par année.
Un dossier de Manon Becker. À noter que les filets utilisés dans les jardins doivent être installés de la même manière. Si vous tombez sur un animal blessé à cause d'un filet, il faut immédiatement le transporter dans une station de soins. Plusieurs milliers de personnes pour la marche des fiertés. Berne a accueilli cet après-midi la manifestation sous une météo capricieuse. De nombreux drapeaux arc-en-ciel ont été brandis au rythme de la musique jouée par des DJ installés sur des chars. Avec ce défilé, les marcheurs ont voulu envoyer, selon les organisateurs, un signal fort en faveur de l'égalité, de la visibilité des personnes queer et de la cohésion sociale. Sur la place fédérale, un festival lié à la marche des fiertés était prévu dans l'après-midi. Un homme inculpé est placé en détention provisoire pour avoir drogué des enfants. Les faits se sont déroulés en Angleterre dans un camp de vacances entre le 25 et le 29 juillet. L'homme de 76 ans aurait mélangé des bonbons à des sédatifs. 8 enfants et un adulte ont été emmenés à l'hôpital par précaution, mais tous en sont sortis peu de temps après, indique la police locale. Une prochaine audience devrait se dérouler le 29 août. 18h08 et il est l'heure de passer au sport avec vous, Vincent Costet, bonsoir.
Bonsoir Ella.
Avec vous, on se rend au Tessin, pas pour les vacances, mais pour du football.
Absolument, puisque c'est à Bellinzone que Neuchâtel Xamax joue son premier match à l'extérieur de la saison de Challenge League. Alors après leur match nul en ouverture de saison à la Maladière contre Stade Nyonnais, les Rouges et Noirs espèrent prendre 3 points ce soir. On verra si le jaune leur réussit, puisque l'équipe neuchâteloise arbore de nouvelles couleurs à l'extérieur cette saison. Daryl Jeanneret, c'est vous qui assistez à cette première au Stadio Comunale. La partie a commencé à 18h. Est-ce que le jeu xamaxien vous a tapé dans l'œil?
Oui, bonsoir Ella, bonsoir Vincent. Le jeu xamaxien pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose pour les xamaxiens, mais par contre du côté de Bellinzone, on a eu l'ouverture du score à la sixième minute. Vincent, malheureusement, je vous donne cette mauvaise nouvelle, le premier tir. Tessinois, il y en a eu un tout à l'heure, mais qui était vraiment pas dangereux. Et le deuxième, malheureusement, c'est le jeune Willy Vogt. Il était loin, hein, 16 mètres xamaxien. Il a tiré. Son tir a été dévié par un pied xamaxien et Omer Agic a été surpris. Hein. Il était pris un peu à contre-pied et le temps de plonger, le ballon était déjà dans ses filets. Et c'est donc Bellinzone qui mène 1-0 après 8 minutes de jeu ici au Stadio Comunale, Vincent, et j'espère que Xamax va réagir. En tout cas, c'est pas un bon début de match. On rappelle que la semaine passée, c'est Xamax qui avait ouvert le score à la 7e minute à la Maladière par Fabio Saiz. Là aujourd'hui c'est l'inverse, mais aux Xamaxiens maintenant d'avoir du caractère, de prendre le jeu à leur compte et de réagir dans cette première mi-temps.
Merci Daryl, et on espère que vous nous surprendrez encore après ce journal, mais cette fois-ci dans le bon sens. Puis il y a deux parties qui ont commencé en Super League à 18h. Pour l'instant, il n'y a pas de but entre Servette et Saint-Gall, et puis entre Winterthur et Young Boys. Noé Ponti est devenu aujourd'hui à Singapour le premier nageur suisse de l'histoire à remporter deux médailles lors des mêmes championnats du monde. Après l'argent sur 50 mètres papillon, le Tessinois est aussi monté sur la deuxième marche du podium sur 100 mètres papillon, battu par le Français Maxime Grousset. Corentin Reiss.
Noé Ponti devra patienter avant de triompher et d'apporter à la Suisse la première médaille d'or de son histoire dans des mondiaux. Le Tessinois a pourtant mis une claque à son record de Suisse lors de cette finale. Meilleur temps des séries et des demi-finales dans sa discipline fétiche, il a nagé en 49 secondes 83, ce qui fait de lui le cinquième homme le plus rapide de l'histoire. C'est 33 centièmes plus vite que son précédent record, mais il reste à 21 centièmes du nouveau champion du monde, Maxime Grousset. Le Français signe lui le quatrième chrono de l'histoire et un nouveau record d'Europe. Quant à Noé Ponti, il décroche une nouvelle médaille sur 100 mètres papillon après le bronze des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et la place de vice-champion d'Europe 2022. Avec ses deux breloques obtenues à Singapour, il efface ainsi ses désillusions des derniers Jeux de Paris.
Puis Cathy Ledecky reste la reine du 800 mètres libre. L'américaine de 28 ans s'est parée d'or en repoussant les assauts de sa jeune rivale canadienne Summer McIntosh, qui a même dû se contenter du bronze. Le cyclisme suisse n'est pas passé loin de fêter une deuxième victoire consécutive dans la Classica San Sebastian. Un an après le succès de Marc Hirschi, l'argovien Jan Christen a terminé deuxième au Pays Basque, à 9 secondes seulement de l'italien Giulio Ciccone. En mode tennis, Victoria Golubic a échoué en finale du tournoi de Varsovie. La Zurichoise s'est inclinée 6-1-6-2, sèchement donc devant la Tchèque Kateřina Siniaková, qui la devance d'un rang au classement WTA. Enfin, Charles Leclerc sur Ferrari partira en pole position demain du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Monégasque offre à la Scuderia sa première pole de la saison. La météo avant de retrouver le foot. Le ciel sera variable ces prochaines heures avec quelques averses localement intenses. Les températures sont fraîches, la nuit, elle, sera sèche. Et puis demain, on se réveillera avec un temps assez ensoleillé sur le littoral, avec ensuite des développements nuageux étendus. Sur le relief Outre-Chanson, le ciel sera plus changeant, avec de nombreux bancs nuageux, quelques gouttes possibles l'après-midi. Les températures seront agréables en journée, mais restent évidemment fraîches pour la saison. Il fera jusqu'à 22 degrés au bord du lac et 17 sur les hauteurs. Une faible bise est attendue sur le littoral et dans les vallons, et un vent de secteur nord faible à modéré sur les crêtes du Jura. Je vous souhaite une excellente soirée.